Restez informés tout au long de la journée. Écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition. Procès d'Aboubakary. Pardonnez, je ne ferai plus. Aurait été le dernier à propos de d'Aboubakary, en croit le témoin Yves Kambou Camara du Deux Femmes. Lutte contre le terrorisme, l'armée abat plus de 90 terroristes selon le récent bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. Submersion de la route nationale numéro 1, le ministère de l'Eau invite les usagers à la prudence. Assemblée générale des Nations Unies, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, accuse le Rwanda d'agression militaire directe et d'occupation. Une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue à ce journal et nous commençons par le procès d'Aboubakary, des témoignages assez poignants hier au tribunal. Les camarades du défunt d'Aboubakary sont passés à la barre, parmi eux Yves Kambou. Le point de la journée avec Ibrahim Niaouné et Yaya Diomandé.
Pardonnez, je ne ferai plus. Ainsi aurait supplié Bakary Dabo à ses bourreaux avant de rendre l'âme, selon le témoignage de son camarade Yves Sansan Kambou. Enlevé le 19 mai 1990 avec Bakary Dabo et bien d'autres, l'étudiant de l'époque Yves Sansan Kambou affirme à la barre avoir été avec ses camarades torturés jusqu'à ce que mort s'ensuive pour Bakary Dabo. Je le cite. Quand on se retrouvait dans notre cellule, d'Aboubakary a vomi du sang et du riz. Quant à Koulibaly Aboubakar, lui, avait très mal au ventre. Fin de citation. Ces propos sont corroborés par Aboubakar Koulibaly, un autre infortuné du 19 mai 1990. Ce dernier se rappelle avoir été malmené des dizaines de jours durant. Après notre séquestration, le général Gilbert Guinguéré nous signifiait que c'est notre formation nationale populaire et que si parmi nous certains seraient intéressés par l'armée, ils pourraient intégrer, raconte la victime Séni Kouanda, président de l'ANEB en 1990. Qui a donné l'ordre d'enlever, séquestrer et torturer ses étudiants de l'époque? Gilbert Guinguéré, commandant du Centre national d'entraînement commando Sénec au moment des faits, avait évoqué la veille un ordre venu du cabinet de la présidence du Faso qui avait été exécuté par Gaspard Sommé, qualifié par le général lui-même d'élément incontrôlable. Cette assertion est appuyée par Georges-Marie Compaoré, commandant à l'époque de la compagnie de service rattachée au Sénec, lors de son témoignage. Selon lui, l'enlèvement et la séquestration des étudiants le 19 mai 1990 aurait été ordonné par des acteurs politiques civils. Normalement, Sommé Gaspard ne peut pas agir sans instruction de ses supérieurs hiérarchiques. Le général Gilbert Guinguéré ne pouvait pas sanctionner Sommé Gaspard et Yougbaré Magua sans l'aval du président de l'État, explique Georges Marie, avant de citer Gabriel Tamini et Salif Diallo comme ceux qui pourraient avoir des contacts avec les étudiants à l'époque. Accusation qu'avait refuté le directeur de cabinet de la présidence de l'époque, Salif Diallo, lors de son procès verbal avec le juge d'instruction le 9 décembre 2015. Pour cette affaire, il faut interroger Gilbert Guinguéré et Sommé Gaspard car ce sont eux qui étaient les chefs du Sénec. D'Aboubakary est mort dans une caserne et je ne suis pas responsable de cette caserne. Cette affaire est une arme politique contre ma personne, avait déclaré Salif Diallo au juge d'instruction. À l'en croire, c'est le président Blaise Compaoré qui l'informe des événements alors qu'il était en mission à Bamako. Ce sont les Gaspard là, lui aurait précisé le président Blaise Compaoré.
De justice, nous parlons sécurité. L'armée a annoncé hier la neutralisation d'au moins 90 présumés terroristes, dont des 4 dans la période allant du 15 août au 15 septembre, lors d'importantes actions offensives menées dans les régions du Sahel, de l'Est, de la boucle du Mouroun, des Haut-Bassan, du Centre-Sud et du Centre-Est. Khaled Ouedraogo nous fait le point.
Suite à l'attaque à l'engin explosif improvisé qui a visé un véhicule civil le 5 septembre 2022 et ayant fait 35 morts, les forces armées nationales en coordination avec les services de renseignement ont mené une série de ripostes sur les bases terroristes de Saboulé, Gargabouli, Tondiata et Wendopouli dans la province du Soum sur lesquelles les auteurs de l'attaque s'étaient repliés. C'est ce qui ressort du bilan mensuel des opérations de sécurisation du territoire de l'armée. La brutalité des feux, combinée à l'effet de surprise, a permis de détruire plusieurs de ces bases et porter un grand coup à l'organisation terroriste agissant dans la zone. Peut-on lire dans le communiqué qui poursuit qu'au moins une cinquantaine de combattants terroristes ont été neutralisés et d'importants matériels détruits. Suite à l'embuscade menée contre la patrouille envoyée en renfort du détachement de Déhou, les forces armées nationales ont lancé une riposte qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes dont des cadres, a ajouté l'armée. Une importante base terroriste a également été détruite lors d'une action des forces spéciales dans la localité de Souam, dans la région de l'Est, le dimanche 28 août 2022, indique l'armée. Selon elle, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés au cours de l'assaut et des opérations de ratissage. L'armée explique également que depuis quelques semaines, la province des Banwa dans la boucle du Mouroun est en proie à des incursions récurrentes d'éléments des groupes armés terroristes. En plus des actions de harcèlement et de menaces contre les populations, des actions de destruction d'infrastructures ainsi que des pillages ont été enregistrées, affirme l'état-major. La combinaison des moyens terrestres, aériens et de renseignement a permis au cours du mois écoulé de porter de sérieux coups aux groupes armés, notamment au nord, au Sahel et à l'est, explique l'état-major. Il ajoute que ces actions qui visent à désorganiser ces groupes ont permis d'instaurer une certaine accalmie dans plusieurs zones, même si l'on constate un mouvement de la menace vers d'autres localités. La tendance à la baisse du nombre d'incidents sécuritaires constatés le mois précédent s'est confirmée au cours du mois écoulé. Aussi, le retour des populations dans certaines localités, notamment à l'est, s'est poursuivi sous l'encadrement des unités engagées sur le terrain, rassure l'armée.
Sécurité toujours, et du Communique Afrique apporte sa contribution dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et de l'extrémisme violent à travers un projet lancé hier, participation positive des jeunes et des femmes à la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans la province de la Sicile au Burkina. Tel est à ce nouveau projet, en partenariat avec le Fonds canadien d'initiative locale. Le dit projet a pour but de sensibiliser les jeunes et les femmes de la province de la Sicile à travers une éducation aux médias et à l'information. Rabiatou Kongo avec la voix de Chalda pour le reportage.
La province de la Sicile est jusque-là une zone épargnée par le terrorisme. Pour éviter qu'elle ne soit touchée, l'ONG Éducomunique Afrique entend barrer la route à la radicalisation et à l'extrémisme violent dans cette province. C'est ce qui a suscité le lancement de ce nouveau projet intitulé « Participation positive des jeunes et des femmes à la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans la province de la Sicile au Burkina Faso ». Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une série d'activités est au programme pour une éducation aux médias et à l'information au profit des habitants des communes de Boura, Thor et Léo. Aruna Kone, chargé de suivi, évaluation de et du Communique Afrique.
Il s'agit notamment des ateliers de formation à l'endroit des jeunes et des femmes. Également, une campagne digitale et médiatique qui consistera à diffuser sur les médias sociaux des messages de sensibilisation.
Les jeunes et les femmes étant les plus touchés par la question sécuritaire, l'ONG à travers ce projet vise à contribuer à renforcer l'engagement des jeunes et des femmes dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Débuté en septembre 2022, le projet prendra fin en février 2023, soit 6 mois de mise en œuvre. Aruna Kone.
Il s'agira également de pouvoir inciter ces jeunes-là et ces femmes à prendre des initiatives eux-mêmes. Également de pouvoir mettre en place des cadres de concertation, des cadres d'échange entre les jeunes et les décideurs.
Pour rappel, Éducomunique Afrique est une organisation qui a pour mission de promouvoir l'éducation aux médias et à l'information en milieu jeune. Elle utilise les sciences de l'information et de la communication pour lutter contre l'extrémisme violent, le radicalisme, la désinformation, la violence faite aux femmes et aux filles.
La route nationale numéro 1 au niveau du pont de Erédougou à Pa sur l'axe Ouagabobo a été submergée suite à la pluie enregistrée dans la nuit de lundi à hier mardi. C'est ce qui ressort de la note d'information du ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement en date d'hier. Par conséquent, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement invite les usagers de ce tronçon routier à une grande prudence, notamment sur la partie submergée. Accès des populations aux soins de qualité, le Conseil économique et social réfléchit sur la problématique. Réunis pour la deuxième session ordinaire de l'année 2022, les conseillers passeront en revue le thème « Soins de qualité dans les services de santé au Burkina ». Quelle stratégie pour un meilleur accès des populations ? Débutée hier, cette rencontre va prendre fin le 17 octobre prochain. Moumouni Yaro.
Le système sanitaire burkinabé a mal. L'offre de santé étant insuffisante au regard de la demande. Les 90 conseillers du Conseil économique et social veulent y trouver des solutions afin de l'améliorer. D'où cette session de réflexion durant 28 jours à même de faciliter les offres de santé en qualité et à moindre coût pour tous les Burkinabés. Augustin Yen, vice-président du CES.
La plupart des structures de soins n'arrivent pas à offrir des soins de qualité et en quantité adaptés aux besoins des populations. Notre système de santé rencontre globalement des faiblesses caractérisées par une insuffisance d'agents de santé, la mauvaise qualité des soins, le faible niveau de motivation du personnel de santé, une formation inadéquate, un accès insuffisant aux produits essentiels de qualité, des infrastructures de santé obsolètes et en inadéquation avec les normes sanitaires requises, ainsi que des équipements insuffisants et souvent en panne.
Plusieurs actions menées et en cours sont sur la table des conseillers. Bonaventure Ouedraogo, président du CES.
Nous avons fait un travail qui a consisté à aller dans 6 des régions à faire des enquêtes auprès de spécialistes. Après cette ouverture, nous allons commencer d'abord par examiner notre rapport introductif. Nous allons avoir d'importantes communications qui seront faites en tout cas par des spécialistes et des experts dans la matière. Communication là et notre rapport vont servir de réflexion pour dégager des recommandations que nous voulons pratiques, concrètes, réalistes et réalisables pour notre pays.
Une sortie terrain dans la structure de santé est prévue afin de toucher du doigt les réalités qu'elles vivent.
Les cadres du ministère de la fonction publique sont en réflexion à Kourougou. Ils réfléchissent pour une administration publique performante au service des usagers avec l'élaboration d'un avant, d'un code d'éthique et de déontologie. À cet effet, les travaux donc ont débuté lundi dernier. Sabuna Ouedraogo.
La nécessité de doter l'administration publique de codes d'éthique et de déontologie fait suite aux audits basés sur les risques menés par l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption dans plusieurs départements ministériels. Cet outil contribuera à mieux encadrer le comportement des agents du ministère pour rendre de meilleurs services aux usagers. Idrissa Sinon est l'inspecteur général des services du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale.
C'est toujours intéressant d'encadrer davantage. C'est bon quand même que chaque ministère puisse avoir un document à son image.
Ce code d'éthique et de déontologie qui parlera de valeurs, de transparence, de responsabilité, d'intégrité et de non-discrimination va contribuer à lutter contre la corruption dans les services publics. Sidi Barry, chef du département de la promotion de la bonne gouvernance au secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance.
Nous allons donc identifier quelques obligations censées encadrer le comportement des agents dans le quotidien afin de leur permettre de ne pas tomber dans ces travers comme par exemple la corruption, le non-respect de certaines obligations.
Ce sont plus d'une trentaine de cadres des structures centrales et directeurs régionaux du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale qui séjournent à Kourougou jusqu'au 25 septembre pour élaborer cet avant-projet. Sabuna Ouedraogo, Kourougou Radio Omega.
Hors de nos frontières, la justice sénégalaise a confirmé ce mercredi la condamnation du maire de Dakar, Barthélemy Diaz, à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, après son jugement en appel pour la mort d'un homme tué par balle en 2011. Barthélemy Diaz, farouche opposant au pouvoir, est devenu maire de Dakar en février pour le compte d'une coalition nationale conduite par Ousmane Sonko, prétendant déclarer à la présidentielle de 2024. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda hier à l'ONU d'agression militaire directe et d'occupation. Félix Tshisekedi a montré du doigt les forces de Kigali qui occupent des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le M23, auquel le Rwanda apporte un soutien massif tant en matériel de guerre qu'en homme de troupes. Le président de la RDC a encore accusé le M23 avec le soutien de l'armée rwandaise d'avoir abattu en mars dernier un hélicoptère de la mission de l'ONU, la MONUSCO, tuant 8 casques bleus et commettant ici un crime de guerre.
La revue de presse.
À la une de la presse burkinabé, la rentrée scolaire au Burkina qui s'annonce avec des menaces de boycott de la part de certains syndicats. Dans le volet justice, c'est l'ouverture du procès d'Abou Boukari qui suscite de l'espoir. À l'international, nos confrères se penchent sur l'affaire des mallettes d'argent de Guy Onzoubandama, l'ancien président du Parlement gabonais, et l'ouverture de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. La revue de presse de ce mercredi est présentée par Brigitte Yoda.
S'il vous plaît, ne prenez pas la rentrée scolaire des enfants en otage. Supplication faite par l'Express du Faso à l'approche du rendez-vous du 3 octobre prochain. Dans sa rubrique « Autant le dire », le journal invite les deux parties, gouvernement et organisation syndicale des enseignants, à ne pas prendre en otage l'avenir d'enfants qui n'ont rien à voir avec une quelconque question de reclassement. Gouvernement et enseignants doivent s'asseoir autour d'une table de dialogue et de négociation, soutient le journal Bobolais. L'ouverture du procès d'Abou Boukari est qualifiée comme une autre victoire contre l'impunité par le quotidien qui se réjouit du fait que, depuis quelques années, les dossiers pendants ou dits emblématiques en justice sont en train de connaître des dénouements. Toute chose qui pourrait, selon le journal, fortifier la dynamique de réconciliation nationale en cours dans notre pays. Vivement donc qu'après le dossier d'Abou Boukari, celui de Norbert Zongo soit enfin jugé, espère le quotidien. L'observateur Palga nous amène au Gabon. Il pose la question de savoir d'où vient ce magot avec lequel l'opposant Guy Onzoubandama tentait de passer la frontière en provenance du Congo voisin. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, aujourd'hui passé à l'opposition, a été appréhendé le 17 septembre 2022 à la frontière entre le Gabon et le Congo Brazzaville avec 1 milliard 190 millions de francs CFA. Oui, vous avez bien lu. 1 milliard 190 millions de francs CFA, relate le doyen des quotidiens, pour qui, même si les partisans de l'opposition ont beau crier à un acharnement politique, il faut reconnaître que même si tel est le cas, Guy Onzoubandama a tressé la verge qui servira à le flageller. Avec la présidentielle de 2023, l'Obs pense que sur le plan politique, c'est comme s'il venait de se tirer une balle dans le pied. Terminons par la 77e Assemblée générale de l'ONU. Dans ce contexte de crise mondiale liée à la guerre en Ukraine qui polarise l'attention des Occidentaux, le pays se demande si, au-delà des discours officiels et du temps de prise de parole, la voix de l'Afrique sera entendue. Hier, lors de son discours, le président de l'UA, Macky Sall, a demandé au Conseil de sécurité de s'engager davantage dans la lutte contre le terrorisme, mieux il a demandé un mandat plus robuste et des moyens conséquents, lance le journal des 1200 logements. C'est un plat que Macky Sall réchauffe, déplore aujourd'hui au Faso, car c'est la même ONU qui pendant longtemps a refusé le chapitre 7 au G5 Sahel jusqu'à ce qu'il implose avec la sortie du Mali. Autrement, pour notre confrère du pays, si les assemblées générales doivent continuer à se suivre et à se ressembler dans le folklore, elles n'auront aucun intérêt pour des populations africaines déjà désabusées.
Voilà, vous l'aurez compris, c'est ici que nous refermons cette édition. Edwige Tendrebeugou à la technique, Chalda à la retransmission web. Et nous vous souhaitons un excellent après-midi avec ce proverbe indien. Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre.
Radio Omega, l'info en direct.